Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Si vous êtes un ou une fidèle de longue date de Code Source, vous avez sans doute déjà entendu la voix de Laura Rapp, qui a aujourd'hui 36 ans. Laura a survécu à une tentative de féminicide. Un soir d'avril 2018, son ancien compagnon a tenté de la tuer devant leur fille de 2 ans et demi. L'année suivante, elle avait témoigné dans Code Source alors que cet homme venait d'être remis en liberté en attendant son procès. On avait repris des nouvelles de Laura 1 an plus tard et aujourd'hui, elle a bien voulu nous raconter la suite de son histoire, la sortie de son livre pour raconter les violences qu'elle a subies et le procès en diffamation que lui a intenté par la suite son ancien compagnon. Elle témoigne dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
Laura a déjà témoigné pour Code Source en 2019 puis en 2020. Quand je l'ai contactée par téléphone, elle a tout de suite accepté de me raconter à nouveau son histoire et tout ce qui s'est passé depuis qu'on l'a entendue dans notre podcast. Je la rencontre alors à la terrasse d'un café près de chez elle. Elle est originaire de la région parisienne, mais elle a dû déménager à des centaines de kilomètres de là pour échapper à son ancien compagnon. Aujourd'hui, elle se sent un peu plus en sécurité, mais elle sait qu'elle ne sera jamais complètement sereine.
J'ai déménagé, je suis loin, mais je sais que je ne dois pas être à côté de cet homme. Je sais que quand je suis à Paris, en région parisienne pour un déplacement, ça reste compliqué. Je me dis qu'il ne faut pas que je sois toute seule et qu'il y a toujours une part de moi où je sais qu'il faut que je fasse attention.
Laura rencontre son ancien compagnon en février 2013. Elle vient tout juste d'être diplômée d'une école de commerce et trouve du travail dans l'immobilier. C'est l'un de ses collègues. Elle a 23 ans et lui a 4 ans de plus qu'elle.
Ça a été en fait comme un coup de foudre, voilà. Coup de foudre intellectuel, il était charmant, drôle, intelligent. Je me suis dit, waouh, c'est un peu comme le prince charmant. On s'est rapidement mis en couple, il a emménagé chez moi. Donc au départ, tout se passait bien, on était tout le temps ensemble. On sortait beaucoup, alors c'est vrai que je voyais moins mes amis, mais je me suis dit en même temps, voilà, je suis amoureuse, c'est un peu normal, je voyais pas le mal. Et ensuite, il y a eu la première gifle au bout de 4 ou 5 mois de relation. Donc, il revenait d'une soirée alcoolisée, il est rentré, il m'a sauté dessus. Et en fait, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Voilà, je suis restée un peu en état de choc, en état de sidération. Et le lendemain, quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit, en fait, c'était la faute de l'alcool. Puis, il m'avait aussi expliqué son enfance qui a pas toujours été heureuse, où son père frappait sa mère. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, c'est pas de sa faute, c'est la faute de l'alcool. Ce sera la seule fois, il n'y en aura pas d'autres. J'ai vraiment mis ça sous le coup de l'alcool. Et après, on est parti en vacances en Grèce. Et c'est vrai que c'était très idyllique. Il m'a fait une demande de fiançailles. C'était tellement beau, ces vacances. Tout se passait bien. Donc je me suis dit, c'est bon, c'est rien, ça va être le bon. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que lui, il s'était acheté un appartement. Il avait vraiment insisté pour que je laisse mon appartement, que j'aie une vie chez lui à la rentrée. Je me suis dit, c'est bon, je vais franchir le pas. Ce que j'ai fait. Et quand j'ai emménagé chez lui, en fait, dès le premier soir, l'enfer a commencé. Voilà. On s'est disputé, il m'a dit voilà, t'es chez moi, tu vas apprendre à fermer ta gueule. J'avais pas assez confiance en moi, donc il m'a rabaissé, il m'humiliait beaucoup sur mon physique. Il fallait que je fasse attention à mon poids, que si je prenais 3-4 kilos, personne ne voudrait de moi. Je suis née en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Il me disait que je n'étais qu'une fille de banlieue, une bolosse, que parfois j'étais peut-être pas assez bien pour ses amis qui, eux, vivaient dans les beaux quartiers de Paris. Beaucoup de choses comme ça et qui font que vous avez l'impression d'être plus rien. Les violences physiques ont commencé, les strangulations, les bousculades. Il y avait beaucoup de violences physiques qui étaient sous l'emprise de l'alcool parce qu'il sortait beaucoup. Il découchait, donc forcément je demandais où il était, ce qui générait des disputes. Il rentrait aussi en plein milieu de la nuit, il me sautait dessus, il m'étranglait, il me frappait. Donc c'était très difficile et en fait pareil, cet état de choc, cet état de sidération... À chaque fois, il me faisait culpabiliser. Il me disait, quand je demande des explications, « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il me dit, « C'est de ta faute. Tu l'as cherché. Tout était toujours de ma faute. » Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me disais, « Mais peut-être que le problème, c'est moi. » J'aimais cet homme, en fait, et je m'étais dit à chaque fois, « Le pauvre... » Et c'est paradoxal, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait aussi des bons moments. Et les violences, au bout d'un moment, on les efface. Et après, ça fait comme un brouillard entre les bons moments et les mauvais moments. Donc c'est ça aussi qui brouille totalement le cerveau, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir une belle soirée, un beau week-end, ce qui gomme toutes les violences en fait.
Au printemps 2014, après un an de relation, des policiers interviennent pour la première fois à leur domicile. Ils ont été alertés par les voisins qui ont entendu des coups. Laura a peur et décide de ne pas porter plainte, alors les policiers repartent. Quelques mois plus tard, elle trouve la force de le quitter après un énième épisode de violence.
C'était un matin, donc il n'était pas du tout ivre, il m'a giflé. Il m'a giflé et en fait, je me suis dit, non mais là, c'est trop. C'est trop, je suis partie au travail, je suis en train de pleurer sur la route, j'ai appelé un de mes collègues qui était devenu un de mes amis, qui m'a dit, non mais là, c'est bon, faut que tu partes. Le soir même, je lui ai dit que je partais et du coup, je l'ai quitté. En fait, il s'est mis à pleurer. C'est la seule fois où je l'ai vu pleurer, il s'est écroulé par terre et en fait, j'en ai culpabilisé encore une fois. Je me suis dit, mais le pauvre, je le laisse, mais je souffrais trop. Et du coup, j'ai réussi à le quitter.
Laura quitte leur appartement et s'installe chez un ami. 3 mois après leur rupture, son ancien compagnon lui demande de la voir et elle accepte.
C'est un homme qui est très propre sur lui, très soigné. Et là, je le vois, son costume dans un état un peu pitoyable. Il avait des griffures et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il m'a prétexté qu'il avait fait une soirée, qu'il n'était pas bien, qu'il dépérissait totalement depuis qu'on n'était plus ensemble, qu'il se rendait compte que j'étais la seule personne qui avait essayé de tout faire pour lui, qui regrettait de m'avoir frappée et qu'il voulait changer. Et il m'a demandé de lui laisser une deuxième chance, ce que j'ai fait parce que je me suis dit que dans la vie, on a tous le droit à une deuxième chance et je suis retournée avec lui. Je suis retournée avec lui et c'est vrai que rien à dire, tout se passe bien. Et ce qui se passe, c'est que je tombe enceinte, c'est pas prévu et je m'en rends compte tard, plus de 3 mois de grossesse. Ça me faisait un peu peur parce qu'on est à peine de se remettre ensemble. C'était un peu la panique. Je me suis dit non, mais je ne vais pas la garder. Et lui, il était heureux. Je me suis dit bon. Et quand j'ai vu l'échographie, j'ai tout de suite aimé en fait. Et je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je la garde. Et lui était heureux. Je voyais de la lumière dans ses yeux. Cette lumière, elle n'a pas duré longtemps puisque après, les coups ont repris au bout de 5 mois de grossesse.
Après la naissance de leur fille, à la fin de l'année 2015, les coups ne s'arrêtent pas. En novembre 2017, alors que leur fille a 2 ans, une dispute éclate un soir alors que le compagnon de Laura rentre de soirée.
Il est rentré de soirée, on s'est disputé, je suis partie dans la chambre, j'avais notre fille, il est arrivé, il a balancé une bouteille d'eau froide sur notre fille. Et là j'ai pété un câble, je lui ai demandé de quitter l'appartement. Et là j'ai vu son regard noir, je sais pas, j'ai eu peur. J'ai repris ma fille, j'ai appelé mes parents et je leur ai demandé de venir. Sauf que là il est arrivé... Et là, il est arrivé avec un club de golf. J'ai juste eu le temps de me mettre à genoux, en fait, par terre avec ma fille. Et il m'a mis le club de golf sur ma tête. Il m'a dit, tu mérites que je te tue, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mes parents sont arrivés. La police, ils avaient appelé la police sur le trajet. Donc, ils sont arrivés à peu près l'un derrière l'autre. Ils nous ont mis chacun dans une pièce. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai demandé, en fait, aux policiers si je déposais plainte, qu'est-ce qui allait se passer. Le policier m'a dit, les menaces de mort avec le club de golf, c'est ma parole contre la sienne. Qu'il pouvait prendre ma plainte, mais qu'il n'allait pas se passer un truc de fou avec la justice, quoi. Et moi, je savais que le jour où je déposerais plainte, si je n'étais pas protégée avec ma fille, j'étais morte. Le lendemain soir, du coup, je me suis retrouvée toute seule avec lui. Il m'a demandé si j'ai déposé plainte, j'ai dit non. Et là, il m'a menacé de mort. Il m'a dit, si tu déposes plainte, t'es morte, je te tue. Je ne ferai pas de garde à vue, je ne perdrai pas mes biens immobiliers, ma vie à cause de toi. Je peux te crever les yeux, je peux te laisser handicapée, tu ne verras plus ta fille grandir. Et je prendrai que quelques mois de prison à la limite. Et là, je n'y rigolais pas. Je me suis dit qu'en fait, que personne ne me croirait. Donc du coup, les mois ont été très douloureux parce que je me suis dit, je savais que ça allait mal se finir et je savais qu'il allait mettre à exécution ses menaces. Trop de fois, il me le disait, même le matin, une fois, il m'avait plaqué contre un mur. Il m'avait dit, t'as pas intérêt à parler à tes collègues et tout. Il m'a dit, tu parles à tes collègues. Il m'a dit, franchement, je te tue. Il m'a dit, je te préviens, fais pas courir de rumeurs. Donc c'était quand même très violent. Et il a mis à exécution ses menaces, en fait, en avril 2018.
Ce soir-là, Laura récupère sa fille après sa journée de travail, puis elle rejoint son compagnon, parti boire un verre avec ses collègues.
Donc on va dire que la soirée s'est plutôt bien déroulée, après il s'est beaucoup alcoolisé, il y avait ses collègues. Et je m'en souviens, au bout d'un moment, je lui avais demandé d'arrêter parce qu'on avait chacun notre voiture, et même s'il y avait 5 minutes de trajet, je lui avais dit de faire attention. Et au bout d'un moment, je sais plus, il est parti en fait, on était en terrasse extérieure et je me dis mais au bout d'un moment il est où? Et quand je vois à l'intérieur, il était encore en train de boire des verres, des shooters avec son collègue, donc je lui ai fait une réflexion. Il a rien dit mais j'ai vu son regard noir. Et je me suis dit à mon avis je vais prendre cher quand je vais rentrer, donc j'ai payé la moitié de l'addition et je suis partie avec ma fille. Quand il est arrivé pas longtemps après moi, il faisait beaucoup de bruit et tout ça. Du coup, je me suis levée et je lui ai dit voilà, d'arrêter de faire du bruit parce que la petite, elle dormait. Et là, on s'est disputé, il a commencé à me faire mal, à me bousculer. Je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien de parler avec lui. Je suis repartie dans la chambre et j'avais à peine le temps de m'allonger que j'ai entendu courir et que là, il est arrivé, il m'a pris, il m'a soulevée, je me suis écrasée sur la table de chevet. Il m'a étranglée à plusieurs reprises, donc j'ai vu la mort ce soir-là dans les yeux de ma fille. J'ai perdu une première fois connaissance. Quand j'ai repris connaissance... il n'y avait plus ma fille, mais j'entendais hurler. Donc, j'ai pris la force qui me restait pour aller dans le séjour. Je lui ai demandé de me rendre ma fille. Elle a serré, elle pleurait. Et là, je me suis dit, il faut que je sorte de l'appartement. Donc, je me suis débattue de toutes mes forces. J'ai réussi à le faire tomber. Et là, je me suis précipitée vers la porte. Sauf que quand j'essaie d'ouvrir la porte, la porte ne s'est pas ouverte. Il avait fermé à double tour et il avait caché mes clés. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais sauter par la fenêtre. Et sauf qu'il est arrivé dans le couloir et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'aller vers la fenêtre. Il m'a éclaté la tête à plusieurs reprises contre le mur. Je suis tombée par terre. Il a continué à m'éclater la tête par terre. Et après, il m'a serré la gorge et voilà, je l'ai tué. Et je me suis dit, voilà, c'est fini. Et voilà, j'ai eu de la chance ce soir-là, c'est que les voisins ont frappé à la porte. Donc, ils m'ont sauvé la vie. Et c'est ce qui a fait qu'il arrête de m'étrangler.
La police arrive sur place. Le compagnon de Laura s'est enfui de l'appartement, mais il est vite rattrapé par les policiers et il est placé en garde à vue. Laura est hospitalisée, puis elle porte plainte contre lui et il est placé en détention provisoire pour tentative de meurtre. Laura déménage ensuite avec sa fille. Le 14 février 2019, après 10 mois de détention provisoire, l'ex-compagnon de Laura est libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec Laura et sa fille. Pourtant, 2 mois plus tard, elle tombe sur lui alors qu'elle sort de chez ses parents. Il s'enfuit dès qu'il la voit, mais désormais Laura ne se sent plus en sécurité.
Et là, ça a été la descente aux enfers. Je me suis dit, il m'a retrouvée, et puis voilà, vous avez quelqu'un qui vous traque comme une bête sauvage. C'est un stress en permanence, quoi. Vous sortez de chez vous, vous regardez à droite, à gauche, vous dites quand est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va arriver dans l'école pour prendre ma fille. Enfin, j'étais en état de choc terrorisé, quoi. Et j'étais profondément choquée que personne ne fasse rien, quoi. À l'époque, on ne vous donne pas de téléphone grave danger, pas de bracelet anti-rapprochement, il n'y a rien du tout. C'est juste ce simple contrôle judiciaire. Et je voyais ce décompte macabre. À l'époque, c'était une femme qui était tuée tous les 2 jours, tuée par leur compagnon ou ex-compagnon. C'était choquant. Donc du coup, je me suis dit, je peux rien faire.
Désespérée, Laura poste un message sur Twitter le 14 mai 2019 en interpellant les médias et le gouvernement. Elle dit qu'elle a peur pour sa vie et pour celle de sa fille. Son message est vu plus 1 million de fois. Et une semaine plus tard, son ancien compagnon est à nouveau placé en détention provisoire. Son procès s'ouvre à la cour d'assises des Hauts-de-Seine le 9 décembre 2019. Laura se retrouve face à son ancien compagnon, assis dans le box des accusés.
Ça a été extrêmement violent et puis je sentais pas qu'il y avait de regrets, de remords, pas d'excuses. Et je pense que le président, finalement, a fait aussi toutes les caricatures des femmes victimes de violences conjugales. Mais pourquoi voulait plus qu'il voie sa fille? En fait, un homme violent peut être un bon père. Il était vraiment excusé, je trouvais. L'alcool excusait beaucoup les choses. En fait, pourquoi je ne suis pas partie avant? Donc c'est vrai que le procès a été d'une très grande violence et je me suis sentie très seule pendant le procès. Très très seule. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme et 50 suivis socio-judiciaires pour tentative de meurtre. Et ma fille a été reconnue victime.
l'ancien compagnon de Laura est ensuite déchu de ses droits parentaux sur leur fille. Le 11 mars 2021, Laura publie un livre, « Tweeter ou mourir ». À l'intérieur, elle raconte les violences conjugales qu'elle a subies et comment elle a utilisé Twitter pour alerter les autorités et se protéger de son ex-compagnon. Quelques semaines après la publication, elle apprend que celui-ci, depuis sa prison, vient de porter plainte contre elle pour diffamation. Elle est alors mise en examen.
Et je l'ai très très mal vécu. Ça a été un peu une autre descente aux enfers. J'avais l'impression... Alors, c'est pas les magistrats qui me laissaient dire que j'étais une délinquante, mais c'est le fonctionnement du système. J'avais l'impression d'être une délinquante. Je me suis dit, mais lui, il est monstrueux. De sa prison, il dépose plainte contre moi. C'est pas justifié. Voilà, de voir le mot que j'étais mise en examen alors que j'avais rien fait, que je me suis dit, mais il y a des hommes monstrueux qui sont dehors, qui font à peine une garde à vue. Je trouvais ça injuste. Je devais payer de nouveau des frais d'avocat. J'ai très mal vécu cette mise en examen. J'ai même pensé vraiment mettre fin à mes jours. Mais vraiment, c'était très très fort. Il n'y avait plus grand-chose qui me calmait. Même les antidépresseurs, les idées suicidaires ont été très fortes.
En mars 2023, 3 ans et demi après le procès aux assises, Laura apprend que son ancien compagnon va bénéficier d'un aménagement de peine. Il est placé en semi-liberté dans les semaines qui suivent, c'est-à-dire qu'il peut aller travailler la journée et retourner en prison le soir. Laura déménage avec sa fille à des centaines de kilomètres de la région parisienne pour qu'il ne puisse pas les retrouver. Le 2 février 2024, son procès pour diffamation s'ouvre devant le tribunal judiciaire de Paris. Son ancien compagnon, qui s'est constitué partie civile, est dans la salle, libre.
Donc là, ça a été d'une violence, en fait, juste le fait de le voir. J'étais terrorisée, donc forcément, voilà, mon corps réagit, hein, des plaques de boutons à en brûler sur le visage, beaucoup de reflux gastrique à ne quasiment plus pouvoir m'alimenter pendant presque un mois et demi, ça a été très compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette audience, tout a été fait pour que cette audience soit moins douloureuse. Il s'est assis derrière son avocate, c'est-à-dire que moi, quand je regardais mon avocat, je ne le voyais pas. C'est plein de détails, mais les détails, en fait, ont toute leur importance. Moi, j'ai pu aussi vider mon sac, ça m'a fait du bien. La procureure aussi, du coup, a demandé notre relax avec la maison d'édition. Elle a dit qu'il ne fallait pas se tromper de victime et que si elle avait eu le pouvoir, elle lui aurait mis une amende significative pour ce qu'il m'infligeait.
La décision tombe le 26 mars. Laura est dans la salle d'audience quand la juge la déclare non coupable.
Et quand elle a dit ça, j'ai éclaté en sanglots, mais je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai éclaté en sanglots. C'était tellement fort, en fait, que tout le monde s'est retourné, que la présidente s'est retournée, elle m'a regardée, elle s'est excusée. Et elle m'a demandé de revenir à la barre. Donc, ce qui ne se fait pas trop, et j'ai trouvé ça beau. Et j'ai pu leur dire merci pour ce qu'ils ont fait, merci pour leur humanité. Et ces magistrats de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, en fait, ils ont remis de la vie en moi. Et grâce à eux, en fait, je souris.
Ambre, après cette relaxe, est-ce que Laura pense que son ex-compagnon va enfin la laisser tranquille ?
Oui, parce qu'en plus de sa relaxe, Laura a obtenu de ce procès en diffamation que son ex-compagnon soit condamné pour procédure abusive. Et elle pense qu'avec ça, il ne va plus l'attaquer en justice, il va la laisser tranquille à ce niveau-là. Et pour ce qui est de sa sécurité, on l'a entendu dans le sujet, elle m'a raconté qu'elle ne se sentirait jamais complètement sereine. Mais quand même, elle m'a aussi dit qu'elle avait beaucoup moins peur aujourd'hui, notamment parce que son histoire a été pas mal médiatisée. Elle témoigne à visage découvert avec son vrai nom. Et ça, elle pense que d'une certaine manière, ça la protège. Parce que s'il lui arrivait quoi que ce soit, les soupçons se tourneraient directement vers son ex-compagnon et donc elle pense que ça le dissuade de s'en prendre à elle et ça la rassure.
Comment va sa fille aujourd'hui ?
Alors, ça a été très compliqué pendant plusieurs années. Elle avait 2 ans et demi quand elle a assisté à la tentative de meurtre et elle en a gardé des séquelles pendant longtemps. Elle a notamment eu des retards de langage pendant plusieurs années. Elle n'a quasiment pas parlé jusqu'à ses 5 ans. Mais elle a été prise en charge par des pédopsychiatres et aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle a 8 ans, elle n'a plus de retard de langage et elle a pu changer de nom de famille pour porter celui de Laura. Et Laura m'a dit que c'était aujourd'hui une petite fille très épanouie.
Merci Ambre Rosala, je rappelle les références du livre de Laura Rapp sorti en 2021. Ça s'appelle « Tweeter ou mourir », publié chez Michalon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-nous des commentaires et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueyo. Réalisation Alexandre Ferreira. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et Le Sacre pour retrouver tous les mercredis les confidences d'un ou une médaillée d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.